puis un père, et puis un grand-père, grand-père de deux enfants. Et c'est une vraie joie d'être père et grand-père. Voilà. Et dernièrement, d'être directeur de... Ça me parle de l'expression qu'on a eu à table tout à l'heure. Moi, d'être directeur d'un centre, l'Institut supérieur protestant, j'étais créateur et directeur d'une école primaire dans une petite région d'Alsace. Donc j'ai pu pratiquer l'enseignement primaire, j'ai pu voir ce que c'était, ce qu'il y avait comme défi. J'étais aussi directeur de l'école et c'était un bon terrain d'apprentissage, un bon terrain de vie. Et pareil, on a eu des très bons retours de tout ce qui était inspection, que ce soit inspection de circonscription, des écoles environnantes. La qualité du travail qui était fourni a été reconnue de manière assez unanime. L'adjoint au maire nous a vraiment, de manière assez incroyable, on a systématiquement été encouragé par le monde non chrétien. C'était vraiment très surprenant. Même tout au début, quand on a voulu ouvrir l'école et qu'on a présenté le dossier à l'inspection académique, donc l'inspectrice est venue de Colmar, et elle a vu le côté religieux, elle m'a dit, mais de toute façon, est-ce que c'est comme toutes ces écoles qui disent religieuses mais qui ne le sont pas? J'ai dit, non, peut-être pas. Elle a dit, oui, parce que c'est ce qu'il faudrait. Alors que j'étais vraiment surpris d'avoir ce genre de remarque, alors qu'on, bah, forcément, on craint un petit peu quand même. Voilà. Et puis donc, les années ont passé, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de professionnaliser le métier, d'apporter des compétences, d'aider les personnes qui voulaient se former à réaliser c'est quoi qu'une identité chrétienne dans l'éducation, c'est quoi qu'une vision du monde, c'est quoi ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait, où c'est que ça démarre. Et puis, à l'époque, il y a des années en arrière, il existait une formation de 3 mois que j'ai passée, et c'était vraiment quelque chose qui était fondamental. Elle avait lieu au Collège Annel dans les années 92 jusqu'à peu près 2000. Ça s'est arrêté. Et puis pendant des années, ça a voulu recommencer, puis ça n'a pas vraiment marché. Systématiquement, les groupes qui démarraient n'ont pas réussi à fonctionner. Et donc, je vais plus loin. Non. C'est bien quand ça veut marcher, ce truc-là. Donc en avril 2013, il y a une constitution d'un groupe de travail, une équipe qui s'est reconstituée avec notamment M. Bussière qui était là, il y avait Patrick Schmitt cette journée-là, il y avait Martine, il y avait Claude Gentner surtout, ingénieur. Et très vite, au bout d'une journée, je relis tout à l'heure tout ce qu'on avait fait en une journée, on avait la vision de ce qu'on voulait faire, on avait commencé à budgétiser, on avait défini un calendrier de travail, au bout d'une journée de travail, on avait pratiquement défini la mission pour l'année qui venait. Et on a pu se baser là-dessus. Et donc, on a travaillé dessus, on a commencé à préparer les programmes d'un premier cursus. On a travaillé sur référentiel de compétences, on a mis en recherche des formateurs. Et en février 2014, on a présenté la première fois le concept d'un projet d'études supérieures, un séminaire à Bobigny d'ailleurs. Bobigny est un lieu de commencement, on dirait. Et puis en septembre 2014, donc on a mis en œuvre le cursus éducation et pédagogie. C'est là où ça a commencé, avec 3 étudiants. Je disais à la table, il fallait des personnes qui aient une forme de folie aussi, pour s'engager, avec des personnes qui proposent une formation post-bac, sans qu'il y ait de critères de qualité reconnus. C'est-à-dire, on avait des choses, mais est-ce que vraiment ça marche? On démarrait, donc c'était difficile. Et donc là, en 2017-2018, on commence à faire la prospection pour d'autres cursus, c'est-à-dire qu'on commence à envisager d'autres cursus, on essaie d'imaginer ce que ça peut être, et on est dans une phase de mutation. Alors l'idée, c'est de ne pas attendre patiemment que le futur vienne jusqu'à chez nous, c'est d'aller l'investir, de l'amener, de vraiment le rechercher, d'investir. Et notre objectif depuis le départ, et c'était la première page qu'on avait écrite en 2013, c'est une vision universitaire. L'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle le niveau post-bac. On a aussi une exigence de qualité. L'idée, c'est pas simplement effectivement de faire comme on a fait pendant les années, une équipe pionnière qui fonce, qui un peu comme ces Gaulois qu'on voit dans Astérix et Obélix, qui se dépatouille un petit peu, qui arrivent comme un nuage, qui réussissent plus ou moins, malgré tout, à résister, ben, c'est pas ce qu'on désire vraiment sur le long terme. Parce que finalement, ce beau petit village, il reste isolé dans son petit coin. Et c'est pas l'objectif. Et bien sûr, des programmes en développement. Développement, ça veut dire qu'on est en développement, en élargissant notre panel de cursus, mais aussi développement en profondeur. Est-ce que le programme est simplement figé pour les 10 prochaines années, ou bien parce qu'on peut travailler dessus, on peut continuer à travailler dessus. Donc la vision universitaire, l'idée c'est de développer une dynamique de formation pour les personnes d'influence dans une société qui est réformée. Alors, qui dit niveau supérieur veut dire qu'on veut toucher toutes les classes de la société, et pas que l'éducation. Et on voudrait que les personnes puissent s'investir dans la société pour la transformer. On est encore une fois très loin de l'école cocon. C'est vraiment une école qui va servir les autres, qui va se mettre au service de la société pour la réformer, pour l'amener vers le changement. Donc on veut réformer par le développement et on veut une nouvelle économie fondée sur des valeurs chrétiennes. Je vais un peu rapidement parce que je pense que le temps a filé. Vous avez beaucoup entendu, donc je passe. Transformer, et notre objectif, c'est bien sûr de transformer l'enseignement supérieur à un autre niveau. On est bien sûr d'accord qu'on ne va pas tout faire. On ne va pas changer tous les systèmes qui existent. Et je vais encore le redire, parce que même si ça a été dit, on n'est pas en opposition avec le monde public. Mes enfants ont été dans l'école collégiale. Je les ai eus comme enfants dans ma propre classe. Donc c'était intéressant aussi pour moi. Mais aussi, ils ont bénéficié de professeurs du public. Et je veux reconnaître qu'il y a un travail... Alors, ils ont eu de la chance. Alors, certains étaient peut-être moyens, on va dire. Mais ils ont eu de la chance d'en avoir qui étaient vraiment excellents, qui les ont accompagnés. J'ai vu des profs de français en BTS se donner avec passion leur métier. Ces visions d'encouragement dont on parlait au niveau, je les ai vraiment retrouvées là. C'est-à-dire que j'ai vu des profs de qualité et ça fait la différence. Donc même si vous êtes dans le public, vous pouvez faire travailler de la même manière. Ce que j'ai vu chez les personnes, je ne sais même pas si elles étaient chrétiennes ou pas certaines, mais j'ai vu une qualité de travail absolument incroyable. Un dévouement pour les enfants incroyable. Quand je parle des enfants, c'est des jeunes ados, hein, et passé le bac. Je connais une enseignante qui travaille dans le sport, dans le public. Je l'ai fait d'ailleurs venir un jour intervenir au niveau de l'ISP. Elle se dévoue, elle a emmené toute une classe en Guyane faire un raid d'aventure. Et je l'ai vu, elle racontait comment elle travaillait, vente de gâteaux, elle a financé, elle a été voir les maires. Donc je ne fais pas la différence entre le public et le privé. Et vraiment incroyable. Donc on peut transformer. Et elle amène, elle est un agent de changement là où elle est. Donc soyez un agent de changement. Donc on peut transformer la société, on peut l'amener vers quelque chose d'autre et on veut développer cette formation professionnelle en francophonie. Alors, dès le départ, on avait imaginé comme une université avec plusieurs facultés, éducation, pédagogie, management et entrepreneuriat, théologie, sciences humaines, langue et communication. Pour l'instant, on verra que le secteur qui a surtout été développé, c'est l'éducation et pédagogie. Il y en a d'autres qui commencent un petit peu à bouger. Des principes fondamentaux, des éléments vraiment qui nous font bouger, l'ouverture, l'excellence et la destinée. L'ouverture, par exemple, on a une vingtaine de formateurs au niveau de l'ISP. On a différents courants de pensée et de ecclésial, on va dire. Il y a des évangéliques classiques, plus branche charismatique, mais on a aussi des adventistes. On a même un anglican. Et ça marche très bien. Et c'est intéressant de voir que l'école oblige les personnes, ceux qui le désirent, mais même celles qui viennent chez nous, qui arrivent avec une idée très fermée, c'est mon mouvement, en dehors de ça, il n'existe rien de bon, sont confrontées au fait qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Et que l'église, c'est plus grand que sa petite dénomination, sa petite paroisse. C'est vraiment c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On a parmi nos formateurs des gens qui ont été, on va prendre John Hay, qui était responsable, qui était au Texas, qui était un éminent, reconnu dans le monde laïque comme étant un des éminents enseignants en recherche biologique pour l'État du Texas, reconnu de manière concrète. Hein. Et puis on a à côté de ça des gens qui sont psychothérapeutes. On a des personnes qui sont ingénieurs au niveau des affaires, arrêts métiers, comme Pierre Bonin. Donc on a un vaste panel de gens qui viennent former. Et puis il y a simplement, entre guillemets, des enseignants. Du Collège Agnel, Patrick Schmitt, par exemple, il vient enseigner au Collège Agnel. Moi-même, je forme, bien sûr, M. Luc Bussière fait partie des principaux artisans de l'ISP. Voilà. L'ouverture, elle est aussi prenante dans ce niveau-là, et on recrute en dehors dans le milieu. L'excellence... on en donne et moins de travail à nos chers étudiants. On parlait à table, peut-être que ça va être plus tard, mais je vais peut-être le redire déjà tout de suite. Mon cursus actuellement, c'est sur 2 ans, mais à 3 000 heures. Donc on commence le 20 août et ils finissent début juillet. 2 semaines de vacances à Noël, c'est tout. Et ils sont en moyenne de 35 heures de travail par semaine, non-stop. Donc c'est équivalent facilement de 3 à 4 années ailleurs. Et les niveaux qui sont enseignés, c'est aussi du lourd. Donc c'est vrai qu'on n'a que 2 ans, et on peut dire, oui, mais c'est que... Ça va beaucoup plus loin. Donc l'excellence, c'est vraiment un critère. Excellence aussi dans nos programmes, on est en permanence, on commence doucement à se calmer, à refondre nos programmes pour qu'ils soient le plus cohérent possible, le plus juste possible, le plus équitable, le plus professionnel possible. Et la destinée. L'Institut ne veut pas simplement former des bonnes têtes, ils veulent que les personnes rentrent dans leur destinée. Et il y a au moins une ou deux personnes qui n'ont pas réussi notre cursus, mais d'une manière assez intéressante, elles ont rencontré leur destinée. Et elles sont maintenant, aujourd'hui, bien plus heureuses aujourd'hui, et nous sont reconnaissantes que ce qu'elles étaient avant. C'est comme si quelque part, elles avaient retrouvé qui elles étaient. Bon, j'ai parlé de plein de choses. Donc, alors, vous avez vu qu'on parle d'un centre de formation professionnelle. C'est la structure qu'on a choisie. Donc, d'abord, on ne pouvait pas utiliser le terme université parce que c'est un terme verrouillé par l'État. On peut éventuellement utiliser le terme faculté, mais ça, c'est quelque chose à revérifier. Mais en tout cas, on a choisi cette structure-là. Alors, l'idée, ce n'est pas d'oublier que c'est une université. C'est une université qui a choisi ce mode de fonctionnement-là. Donc on est enregistré en préfecture, on veut faire des formations professionnalisantes, on sélectionne les étudiants à l'entrée par des dossiers, et pour l'instant on est implanté à Guébillère, 68. L'avantage du centre de formation professionnelle, c'est par exemple, quand vous avez des personnes, y compris dans le public, qui enseignent, vous pouvez faire une demande pour venir être formé chez nous, et c'est pris en charge par les OPCA, organismes collecteurs. On avait des personnes qui étaient au chômage, qui ont pu toucher, continuer à toucher leur allocation au chômage, en faisant la formation chez nous. Donc c'est créer des documents avec le Pôle emploi et ils ont continué à toucher le chômage et à recevoir leur allocation pendant les 2 ans. C'est grâce au centre de formation professionnelle. On a une personne de la marine qui était en reconversion, qui a été payée par la marine pour faire notre formation. Bon, elle s'est arrêtée en cours de route pour raison familiale, mais la marine a été déçue qu'elle arrête. Mais c'est surprenant, la marine était prêt à payer. Donc, du coup, l'avantage d'avoir un centre de formation professionnelle. Ça a d'autres inconvénients, mais en tout cas, ça nous oblige aussi à nous à faire un reporting tous les ans de notre budget qu'on doit donner à la préfecture, à la directe, de qui est venu. Donc, on a aussi des exigences de qualité. Des partenaires, le CNEF, bien sûr, l'ASPEV, Grandir et Vivre. Alors, l'ACI, on a déjà parlé, Jeunesse en Mission. Institut public de Nogent, je suis bien été très encouragé de voir Anne Ruhold, mais aussi du document avec Mme Lily Jäger. Nos étudiants font pendant la première année des cours bibliques à Nogent sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc on a commandé ça chez eux. Et c'est vraiment riche, c'est dense. Donc ça se rajoute à tout ce qu'ils vivent déjà. Grandir et Vivre, c'est plutôt pour tout ce qui est Montessori. Et l'ASPEF, c'est bien sûr le réseau de l'éducation chrétienne en France. Le réseau va changer, va s'appeler réseau Mathurin Cordier. Si jamais il y a un séminaire sur l'éducation chrétienne et sur ce qu'on projette au mois de février à Guébillère, les informations seront sur ce site-là. Donc il y a les brochures là-bas, il y en a d'autres. J'ai vu que c'est parti, donc je suis vraiment content.
Oui, merci à tout le monde, mais c'est pas possible, vous allez vous battre. C'est ça,
donc
je vais les
remettre. Non, il y en a encore d'autres ici.
Ah, et puis il y a aussi, je vais remettre votre brochure. Et
voilà, en tout cas, c'est super. Des dirigeants vraiment engagés, moi-même, mais aussi Claude Gattner, Luc, Manuel Abussière, Michel Dufournet, Gilles Blanc, c'est vraiment les pertes. Alors, certains sont plus au niveau local, Alsace, et puis d'autres comme Gilles Blanc qui viennent de Chambéry, Michel Dufournet vient de Suisse, donc on est aussi international presque dès le départ. Des programmes en développement, donc on veut bien sûr des cursus qui soient très différents les uns avec les autres. Éducation et pédagogie, langue et communication, management et entreprise, autre cursus. Donc, ce qui est en train d'arriver tout doucement au niveau des cursus, c'est un premier cursus français langue étrangère. Donc ça, c'est tout doucement en train d'arriver, d'être développé. On prend du temps. Et puis, un deuxième cursus, c'est management et entrepreneuriat. On va pas forcément démarrer avec un cursus sur toute l'année, mais on va sûrement commencer par des modules là-dedans. C'est prévu pour 2018. et on verra où on va être conduit. Et français langue étrangère, on a déjà commencé à travailler sur un programme et on espère que c'est le début de la faculté des langues, quelque chose dans ce boulot. Voilà. Les formations existent sous la formation initiale. Ce programme, pour l'instant, sur 2 ans pour au niveau enseignement, mais ça peut être plus ou moins pour d'autres formations. À partir du baccalauréat, c'est un minimum. Et bien sûr, formation sur site. Alors, quand je dis baccalauréat, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher quand on vient juste avec un bac dans la poche. Mais c'est possible. On a un par exemple une jeune fille cette année. Moi aussi, elle a fait une année après le bac service civique. Vraiment aucun problème. D'autres sont plus jeunes. Bon. Alors, on peut faire la formation initiale, c'est-à-dire à plein temps ou par module, c'est-à-dire qu'on peut choisir des semaines tout au long de l'année. Et ça permet la flexibilité. Vous pouvez choisir votre vitesse de formation. Parce que les 3000 heures en 2 ans, c'est quand même très, très, très dense. Il ne faut pas faire autre chose à côté. C'est faire un parcours sur mesure, éventuellement avec une validation des acquis pour ceux qui ont déjà d'autres ressources. Et une formation diplômante, bien sûr, au bout. Et puis, on a des formulaires libres, c'est-à-dire que vous pouvez venir faire juste une semaine sans rien faire le travail à côté. C'est juste pour vous former. Voilà, c'est un outil simple, rapide, mais en même temps, vous avez la même qualité au niveau de l'enseignement. Et donc, le module actuellement qui vous concerne, plus aujourd'hui, c'est le module pédagogie éducation, avec notamment une équipe comme Nicole Sissia, Mathieu, Michel, Pascal Kettner et bien d'autres. Voilà, c'est une formation des enseignants qui intègre les valeurs chrétiennes pour exercer votre vocation. Alors c'est vrai, éducation nationale ou pas, encore une fois. Objectif pour finir formation initiale, c'est former en 2 ans. Et puis après, on peut permettre aussi des compléments par la formation module. Donc 2 ans de formation, 47 unités d'enseignement, 10 mois de stage. On considère qu'on a pratiquement 50% de notre temps qui est du temps de pratique. Des confrérations connues, en tout cas dans les milieux en général évangéliques, qui appréciaient. Des maîtres d'accueil au niveau de... Parce que bien sûr, la pratique pratique se pratique dans les écoles évangéliques, comme notamment le collège Daniel et d'autres. Voilà. Première année, 620 heures de cours, 470 heures de travaux personnels, stage de découverte, 6 semaines. Deuxième année, 8 mois de stage. Il y a un mois sur site avec des cours, plus la mémoire, plus lecture obligatoire, plus des comptes rendus toutes les semaines de ce qui se passe dans les stages. Donc c'est vraiment du suivi. C'est très dense, encore une fois, et complet. Des thèmes. Fondements théoriques et théologiques. Ça, c'est normalement nos gens. Tout ce qui est fondements éducation chrétienne, c'est notamment les cours par M. Luc Bissière. D'ailleurs, la première semaine, dès qu'ils arrivent, ils ont une semaine de philosophie. Et les pauvres étudiants, ils arrivent. Ce que vous avez eu là, c'est qu'un très faible aperçu qui vit pendant une semaine. Et il y en a qui disent, dès le premier jour, on a compris que le diplôme ne va pas être donné. Et oui, mais en général, on les prévient avant. On insiste dès le départ que c'est dense. Mais en même temps, c'est quand on a posé les bons fondements qu'on peut aller loin. Rappelez-vous l'histoire de la maison. Hein. Il y a aussi tout ce qui est fondement historique. Pareil, ils ont une semaine là-dessus. Les fondements de l'éducation de l'enfant, c'est le développement de l'enfant. Par exemple, entre le moderne et le post-moderne, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que la société a complètement évolué, donc on a des cours là-dessus. La famille a changé. Comment est-ce qu'on appréhende ça? Comment est-ce qu'on développe la discipline? Donc ça veut dire qu'on s'intègre aussi dans l'aujourd'hui. On n'est pas que dans le moderne, on pourrait sembler être très moderne, mais on est dans l'aujourd'hui. Il faut être dans l'aujourd'hui, sinon on est plus pertinent. Bien sûr, là-dedans, on a aussi tout ce qui est vision biblique du monde. Une bonne semaine aussi pour les étudiants. Et puis après, on arrive à... Alors là-dessus aussi, ce qu'on voit peut-être aussi dans les différents types d'intelligence, les différents types d'apprentissage, les différents types de gestion mentale, tout ça, on le retrouve là-dedans, l'adolescence. Là-dessus, c'est une quinzaine de modules, voire plus, sur les généralités en pédagogie, le CP, maternelle, histoire, géographie, sciences... Mais aussi, comment intégrer les matières scolaires pour qu'elles ne soient pas que des faits, qu'elles puissent servir un but plus grand. Parce que, par exemple, les matières peuvent servir à autre chose. Pas seulement qu'il y ait l'intégration biblique, mais qu'elles puissent servir à un but plus grand. Et par exemple, pendant une semaine avec Johnny, on peut voir ça. Et on travaille les matières scolaires pour qu'elles puissent rebâtir quatre types de relations fondamentales. La première, c'est la relation avec Dieu. Deuxièmement, rebâtir la relation avec soi-même, avec les autres et avec la création. Et ça, pendant une semaine, et quand en général les gens viennent de là, ils sortent avec une forme de révélation. Ils disent, mais... Et c'est en même temps un défi, parce qu'ils sortent avec une révélation, après il faut le mettre en pratique. C'est pas simple toujours, mais ils disent, bon, on n'a jamais vu ce genre de choses. On n'a jamais entendu ça. Juste, John Hare, c'est pas qu'on va passer la main. On va continuer le cursus, mais c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. C'est souvent la dernière fois qu'il vient il a plus de 70 ans, 115. Il est encore jeune, mais tout doucement à sa tête, il va s'arrêter. Ce genre de formation, il l'a donné dans 50 pays différents. Donc c'est transculturel. La première fois qu'il l'a donné, c'était au Soudan, sous les bombes. Il entendait les bombes tomber à droite et à gauche, dans les bâtiments qui étaient complètement dévastés. Il a continué à donner. Et un pays d'Asie, c'était un des personnes avec qui il travaillait, était le gouverneur d'un des rois d'un pays d'Asie, je ne sais plus lequel, Sri Lanka, Thaïlande, enfin quelque part par là-bas en bas, je ne l'ai plus en mémoire. Le roi a demandé à cet homme, qui était son gouverneur quand il était enfant, précepteur plutôt, viens mettre en place ce genre d'éducation. Il a travaillé en Russie, en Ukraine, et chaque fois, ça crée des gens solides pour des générations.